everybody.
Thinking man, thinking man.
Je suis jeune et je suis fort. Mon avenir est en mes mains, je suis pas mort. Je veux travailler dur, faut que je m'en sorte. Être le meilleur, quoi que je fasse, je ferai qu'en sorte. Je suis jeune et je suis fort. Mon avenir est en mes mains, je suis pas mort. Je veux travailler dur, faut que je m'en sorte. Être le meilleur, quoi que je fasse, je ferai qu'en sorte. Ils essayent de nous faire croire que la jeunesse est amorphe, qu'elle est condamnée à boire, qu'elle est faible et qu'elle est morte, qu'elle n'a pas la force en elle pour assurer la relève. Être jeune n'est pas un crime, mais un don venu du ciel. Ils essayent de nous faire croire qu'on n'a pas l'intelligence, qu'on n'est bon qu'à faire la danse, le benzikin par excellence. Rien à foutre de ce qu'on pense, l'essentiel c'est que l'on fume, que l'on boive, pour qu'on vote surtout dans le mauvais sens. Ils essayent de nous faire croire qu'on ne peut se débrouiller seul, que les jeunes sont des aveugles qui ne peuvent avancer seuls. Ils essayent de nous faire croire qu'on n'a pas la moindre chance de faire tomber le système et de leur faire perdre la face.
Messieurs et dames, bonsoir et bienvenue à la Radio Galère. Bienvenue à notre nouvelle émission, La Voix du Bétir. Et aujourd'hui, une fois de plus, on va parler de l'insertion des jeunes sur le marché de l'emploi. Comme invité, nous avons Asma Bensada, sophrologue. Et bien sûr, un acteur de renommée, M. Kadour. Oh, messieurs et dames, bon après-midi et bienvenue à la Radio Galère.
Salut, merci de nous avoir invités.
Sans plus tarder, nous allons commencer par Asma. Déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter une fois de plus?
Oui, donc bonjour, je m'appelle Asma, je suis sophrologue depuis bientôt maintenant 4 ans en octobre. Donc j'exerce à la Fabrique d'art et de culture dans le 7e arrondissement de Marseille. Je partage mon bureau avec un ostéopathe et une naturopathe. Donc c'est un lieu pluriel où il y a de la danse et il y a des ateliers aussi collectifs de sophrologie. Donc voilà.
Alors, et vous, monsieur Kadour?
Moi, je m'appelle, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, en Kadour SF. Je suis acteur et j'écris aussi des sketchs et des trucs comme ça.
Vous êtes acteur professionnel ou alors vous débutez dans le métier du cinéma?
Ça fait un peu plus d'un an et demi maintenant.
D'accord.
Je fais ça.
Et donc, comme vous le savez, ce qui nous rassemble ici aujourd'hui, justement, c'est justement l'emploi, le chômage, l'insertion, la jeunesse, oui. Marseillaise, jeune et créative. Donc, déjà, quelle est votre vision avant de se lancer dans le débat? Quelle est votre vision sur la jeunesse de Marseille? Est-ce qu'elle est active ou pas?
Je laisse répondre.
Oh, merci. J'ai eu l'occasion de travailler comme conseillère en insertion professionnelle au sein de la mission locale, en étant aussi sophrologue. Donc, j'ai pu observer des jeunes de 16 à 25 ans, dans ce sujet-là, dans la réinsertion professionnelle. Donc oui, je pense que les jeunes sont actifs. Je pense qu'il y a plusieurs problématiques à soulever, mais il y a plusieurs aussi solutions à apporter. Donc voilà.
Il y a plusieurs solutions à apporter. Et vous êtes d'accord avec cet avis, Kadour?
Ah oui, non, des solutions, il y en a énormément à apporter. Et pour les jeunes, je pense qu'on peut même faire encore plus que ce qu'ils arrivent à faire en ce moment. Moi, de base, je suis de Belzunce, donc je suis des quartiers, du centre-ville. Je vois comment ça se passe avec les jeunes, tout ce qui suit. Les jeunes, c'est vrai qu'il y en a qui taffent, mais c'est plutôt difficile pour ceux, on va dire, ceux qui arrivent à un niveau, qui n'ont pas de diplôme, les trucs comme ça, c'est compliqué pour eux. Ceux qui sont diplômés, pour la plupart du temps, c'est vrai que c'est bien, et même eux encore, ils galèrent. Mais bon, après, je pense qu'on peut arriver à trouver des solutions sur beaucoup de choses qu'ils peuvent faire, qu'on peut tous les aider, entre guillemets.
D'accord. Et c'est justement pour ça que Asma Bensala, elle est là, donc elle va nous parler de la sophrologie. Déjà, c'est quoi la sophrologie?
Alors, la sophrologie, c'est quoi? C'est une science qui a été créée par un neuropsychiatre qui s'appelle François Caicedo dans les années 60. Et pour résumer, pour faire plutôt simple, c'est une science qui étudie la conscience humaine. Donc, elle permet d'établir ou de renforcer l'équilibre entre les émotions, la pensée et le corps. Son but, l'un de ses buts, son essentiel de la sophrologie, c'est d'utiliser de façon optimale toutes les ressources que nous avons, que nous possédons, par plusieurs techniques de relaxation, de respiration et de visualisation.
Et voilà. qu'est-ce que la sophrologie, elle nous apporte?
elle nous apporte une... Le but étant de la sophrologie, c'est d'être en harmonie corps et esprit. Donc ça apporte une conscience de son corps, une conscience de sa personne. Ça apporte de gérer mieux son stress, ça apporte d'avoir un meilleur sommeil, une meilleure qualité de sommeil. Ça aide les femmes lors d'accouchements, ça aide les sportifs de haut niveau pour les préparations mentales. Donc elle apporte pas mal de choses.
Ça, c'est parfait ça. Et qui est-ce qui peut venir étudier dans votre structure ?
Alors dans ma structure, je n'ai pas de structure. J'ai étudié à l'école de sophrologie PACA, donc il y a bientôt, donc ça fait 6 ans en arrière maintenant. C'est une structure, c'est eux qui décident de je pense qu'à l'époque en tout cas, c'est plus les mêmes personnes maintenant. Il y avait un entretien préalable qui était par Ken Valtui, c'était une psychologue et c'était la directrice adjointe de l'école. Et en fait, il y avait un entretien préliminaire en fait, avant de rentrer à l'école, pour voir, donc faut un minimum un bac. Et puis un entretien, une démotivation, un projet. Qui peut rentrer, ce n'est pas moi qui décide en tout cas.
D'accord. Mais cependant, il y a une question qui me tourmente. En quoi est-ce que la sophrologie, elle peut aider cette jeunesse marseillaise en voie d'insertion ?
Alors, elle peut les aider, ces jeunes-là, en tout cas, si je reprends mon expérience aussi, autant que cancer en insertion, c'est des jeunes qui avaient un problème d'orientation, de conscience d'eux-mêmes, en fait. Ce qu'elle, où elle peut les aider, c'est déjà de prendre conscience d'eux-mêmes, de les libérer, de libérer la parole, par exemple, au niveau de leur communication. De valoriser leur personne. En général, c'est des jeunes, donc c'est on va dire c'est encore l'adolescence est encore présente, donc il y a un manque de confiance, un manque d'estime de soi. Donc elle peut aider dans ce sens-là. Elle peut améliorer l'image de soi, créer un espace de confiance. Elle peut remobiliser, travailler sur l'énergie, mettre en préparer mentalement aussi au niveau des entretiens d'embauche. Voilà.
D'accord. Et du coup, on commence par quoi pour étudier la sophrologie?
On commence par les origines, comme toute chose. Quand on commence par quelque chose, c'est de savoir d'où la chose vient, c'est l'origine de du sujet, donc les origines de la sophrologie. Et étape par étape, nous voyons relaxation. En fait, la sophrologie, on va dire, est divisée par plusieurs chapitres qui s'appellent les relaxations dynamiques. Et ces relaxations dynamiques correspondent à une origine, parce que la sophrologie est inspirée de techniques orientales également, donc de yoga, du zen, du bouddhisme. Donc toutes ces relaxations dynamiques sont vues une à une. Et voilà comment nous étudions.
C'est un gros mélange de culture et tout ce qui va avec. Est-ce que vous proposez des cours à distance ?
Je ne propose pas pour le moment des cours à distance, non. Sur place. B2B.
Et où est-ce que vous êtes basé déjà ? Oui, Monsieur Cadour ?
J'avais une question à lui poser, oui. En fait. Est-ce que sur la sophrologie, c'est quoi ? C'est un truc qui consiste à travailler sur la discussion mentale avec d'autres personnes ? Ou est-ce que c'est physique ? Ça consiste comme des massages ? Ou comme on en a dit tout à l'heure, on en a discuté, sur le yoga, sur les principes de faire des pauses, des étirements qui vont faire, qui vont, entre guillemets, nous faire sentir mieux ? C'est quoi ? C'est un exercice ou...
Alors c'est un tout. Si je peux vous donner un exemple, par exemple, un atelier collectif, on va être en groupe, il va avoir un rapport justement à la parole, parce qu'il y a une présentation, il y a une écoute de soi, donc il y a déjà ça, il y a ça qui se développe. Ensuite, oui, il y a des techniques psychocorporelles, donc de respiration, d'étirement justement, de méditation, donc c'est inspiré de toutes ces... c'est une synthèse, donc on va avoir plusieurs exercices, et à la fin de visualisation, et puis un échange de paroles, donc à la fois... C'est soi, c'est de rentrer en conscience, de développer son schéma corporel, de rentrer en concentration, on va dire, avec soi-même et avec les autres, parce qu'il y a le respect, on va dire, du groupe, il y a un respect de la parole, donc ça permet de développer tout ça. Oui.
D'accord, ouais, c'est pas mal.
Voilà.
Ouais, c'est pas mal, parce qu'après aussi, sur le principe en lui-même, les jeunes, ils sont pas forcément attirés, on va dire, entre guillemets, par la discussion, le blabla. On va pas se mentir, c'est
oui,
saoulant.
C'est une réalité, c'est oui.
Alors que si on leur propose quelque chose de physique, sur quelque chose sur lequel ils pourront se dépenser...
Même ludique, ça peut être même ludique, ça peut être détourné par des jeux, par des
c'est
jeux
C'est ça, même ça peut être totalement
groupe.
De l'écrit.
Ah, complètement,
Ça peut être de l'écrit, ça peut être plein de choses, comme le théâtre, l'impro. Complètement. C'est ce qui permet de détendre l'esprit et le corps. Ouais.
Et justement, d'où la question, est-ce que justement... un jeune qui, par exemple, prépare son permis de conduire à un entretien d'embauche,
oui.
Est-ce qu'il va chercher à savoir quelles sont les origines de la sophrologie, quand pourtant ce qu'il a besoin, c'est justement se sentir bien pour le lendemain.
Alors oui,
qu'est-ce
à ce
qu'il faut
faire,
par quoi est-ce qu'il doit commencer?
Oui, et par contre, oui, dans ce cas-là, quand on va faire des études de sophrologie, on va chercher on va dire l'étymologie du mot, les origines, tout ce que nous savons. Mais oui, par exemple, demain, vous voulez faire un exercice parce que vous stressez avant un entretien d'embauche ou avant de passer le permis. il n'a besoin de rien connaître, il a juste besoin de venir à un atelier et de participer, de se présenter, et c'est le sophrologue qui guide toute la séance, qui propose des exercices, qui propose des exercices de visualisation, qui propose des exercices de respiration, comme on disait, peut-être des jeux même, pour mettre en fonction des personnes que nous avons en face de nous, qui va s'adapter et qui va proposer. La personne va recevoir, on va dire. Elle va être actrice également, parce que justement, elle va faire ces exercices-là, elle va les reproduire. Le but étant, c'est qu'elle devienne actrice, qu'elle acquiert tout, c'est ce qu'elle va apprendre pendant cet atelier-là, pour le refaire le jour J, pour le refaire avant son entretien d'embauche, par exemple, ou avant de passer... sans permis, de se dire, bon, ok, moi je sais que je stresse beaucoup, bon, ben, avant mon entretien, je vais faire quelques exercices de respiration, je vais faire juste quelques exercices de visualisation pour baisser mon niveau de stress et pour être pour être en capacité au moment venu.
Et donc, voilà. Du coup, vous proposez des séances individuelles ou bien par groupe ?
Les deux, individuelles et collectives.
Et c'est quoi la différence entre les deux ?
Alors, la différence entre les deux, c'est qu'individuel, on va dire que ça va être plutôt du sur-mesure. On va avoir un temps de parole, on va définir les objectifs ensemble. Les séances vont être vraiment adaptées à la personne et à sa problématique ou son questionnement. C'est par exemple sur le sommeil, ça va être donc des séances qui vont être basées sur le sommeil. Collectif, ça va être autre chose, il y a un rapport au groupe. On n'est plus dans l'individuel du B2B. Là, c'est le rapport au groupe. Donc, avoir d'autres personnes. Et c'est des ateliers à thème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un thème, je vais proposer la gestion des émotions. Donc, je vais aller spécialement pour ce thème-là. Du coup, la personne va recevoir, mais sur le thème. Ça va être vraiment... et du coup, ça ne va pas être sur mesure parce que c'est du groupe. Donc, même... Ce que le sophrologue, ce que je vais ramener pendant la séance, je vais essayer de m'adapter à toutes les personnes. Donc, ça va être plutôt général. Ça ne va pas être, on va dire, focalisé sur la personne. Voilà.
D'accord. Et Monsieur Kadour, est-ce que vous pratiquez de la sophrologie avant chaque tournage ?
C'est une forme, peut-être ?
Après, ça dépend. S'il y a un régime à suivre sur la nourriture, on ne va pas être copains.
Non, il n'y a pas de régime à suivre. Non. C'est pas naturopathe.
Mais c'est vrai qu'à un certain niveau, avant de passer un casting ou quoi, j'ai des petites méthodes de respiration ou de détente où je fais toujours quelque chose qui va me détendre l'esprit. Donc si j'ai la possibilité d'avoir mon téléphone à proximité, ça va être une photo de mes enfants ou un truc comme ça qui va totalement me rendre complètement serein. Sinon, ça va être une petite méthode de respiration qui va faire que je respirerai mieux, je me sentirai mieux dans mon corps, quoi. C'est plus un truc comme ça. Mais je ne fais pas des étirements comme Ronaldinho. Quoi.
Une photo de votre fils, ce n'est pas de la sophrologie, ça ?
Si, c'est une forme de sophrologie.
Ah ouais ?
C'est plutôt une forme de sophrologie.
Sophrologie ?
Oui.
Bon, d'accord. Asma, alors, une séance suffit ou alors il en faut régulièrement ?
Il en faut régulièrement, je pense. Alors, une séance peut suffire si vous venez en atelier collectif, vous l'enregistrez, puis après, vous la reproduisez, parce que comme je vous disais, c'est la répétition qui va ramener les résultats. C'est comme un sport, plus vous allez pratiquer et plus votre muscle va augmenter. Ouais. Donc, ce n'est pas une baguette magique. Donc, il faut pratiquer comme les exercices de respiration. Plus vous allez en faire et plus, comme l'image que vous disiez tout à l'heure, je vais regarder juste une photo et puis je vais envoyer un message à mon cerveau. Donc, mais pour ça, il faut l'avoir pratiqué plusieurs fois. Ouais. En séance individuelle, 8 à 10 séances environ. Et en séance collective, au bon vouloir de chacun. Mmh. C'est quelque chose qui est plutôt libre. Mais voilà, je propose toujours d'enregistrer les séances et de refaire et de reproduire.
Et quel moment est l'idéal ?
Quel moment l'idéal ? Ça dépend. Le matin, peut-être, il y a des respirations différentes. Par exemple, le matin, on peut prendre de l'énergie. On peut faire juste quelques respirations différentes juste pour se remplir en énergie. Le soir, plus de la détente, de la relaxation pour s'aider à l'endormissement. Ça va dépendre, en fait, de l'objectif du moment.
La sophrologie, est-ce que ça marche ?
Je pense que oui, ça marche. Je ne dirais pas le contraire. La sophrologie a été à la base exercée par un docteur, le docteur Abrézol, qui l'avait testé sur des médaillés, donc olympiques, donc 200 grands sportifs de haut niveau. Elle est utilisée aussi à l'hôpital pour l'aide à l'accouchement des femmes. Je pense que oui, ça marche.
D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous faire un petit exercice sur Kadour, par exemple, actuellement?
Je savais pas que j'allais finir cobaye.
Ok. On va continuer donc sur. Allez, je vous fais. Vous êtes prêts?
Je vous
fais.
Je vous suis.
Vous
c'est
me suivez?
Parti.
Ok. Bon. Alors, je vous invite à fermer les yeux et à laisser passer les pensées, les idées, sans chercher à les retenir. et à laisser passer votre attention, à laisser se diriger au niveau de vos pieds. À poser, à ancrer vos pieds bien au sol, à sentir le contact avec le sol, avec les chaussures, avec le dossier de la chaise. Et je vous invite à laisser votre attention se diriger au niveau de votre respiration et à simplement l'observer. Peut-être que vous pouvez poser une main au niveau du thorax, une autre main au niveau du ventre. Et observer quelle main se soulève. Est-ce que c'est plutôt la main qui est au niveau du ventre ou du thorax? À juste l'observer, sans la changer.
Non, je ne change pas, juste j'essaie d'observer au maximum ce que ça donne. Et c'est vrai que quand je me sens bien détendu, mais... C'est plus au niveau du ventre.
C'est pas
le thorax, c'est plus le ventre.
D'accord. Donc sur cette lancée, je vous invite à mettre la main qui est sur le thorax avec l'autre main qui est au niveau du ventre. Et on va continuer sur quelques respirations abdominales. Donc d'abord nous soufflons, nous vidons l'air complètement des poumons. Le ventre rentre. Et à la prochaine inspire, le ventre va se gonfler tel un ballon. Inspire. Et j'expire, le ventre rentre, encore deux fois, j'inspire, et j'expire, à votre rythme.
Ah, si je continue comme ça, je vais partir en... Non, je vais m'endormir, franchement non, c'est vrai, ça... Je me sens bien.
Alors, c'était un début, c'était non, juste un début.
Est-ce que ça a marché?
Je transpire.
Normalement, ça dure une heure. Là, c'était que le début.
Je transpire.
Mec. Donc, en gros, une séance moyenne, c'est une heure.
Une séance moyenne, c'est une heure.
C'est long, ça, quand même.
Ah ouais, mais elle m'a... Waouh! Sérieusement,
Donc, en gros, si actuellement...
Bravo. Bravo.
Vous êtes réceptif. Ce n'est pas bravo.
Bravo.
Vous êtes réceptif.
Cadeau.
Je
donc, si l'on vous met actuellement devant un employeur, un recruteur, vous aura dit que vous avez 100% de chance.
100% de chance, je ne sais pas, parce qu'après, il faut voir l'action sur l'instant aussi. Après,
Il y a une réalité.
Bien sûr, il y a une réalité, ce qui s'appelle le stress, et qui peut revenir à tout moment. Mais c'est vrai que, sincèrement, même là, je suis bien. Même dans ma tête, j'ai plus rien qui tourne. Quoi. Ça, je pense plus. Ce qui est très rare chez moi. Oh. Je ne pense plus.
Ça, c'est parfait. Alors. Franchement, c'est très encourageant.
Non, franchement, ouais.
Je crois que moi aussi, je vais commencer à faire de la sophrologie.
C'est waouh.
Et donc, du coup, est-ce qu'il y a des symptômes pour lesquels la sophrologie ne peut pas intervenir?
Les phobies, là il faut l'aide d'un psychothérapeute, et les états limites et les psychoses.
Ah ouais?
Oui.
Et donc, les gens qui viennent vous voir, quelle est la question qu'ils vous posent le plus souvent, donc le trouble le plus répandu?
Ça va être le stress au travail. La majorité des personnes que j'ai pu avoir en consultation, c'était le stress au travail et des problèmes de sommeil.
Ouais. C'est aussi votre cas, monsieur Cadour?
Le sommeil, oui. C'est vrai que si je dors 3 heures par jour, c'est beau.
D'accord, ok.
Mais c'est vrai que le niveau sommeil, on ne dort pas. Après, le stress, je ne sais pas ce que c'est.
Après, vous êtes acteur, donc le stress, c'est comme il y a le bon stress,
oui,
c'est comme le trac, je suppose.
Ça, c'est des choses que je n'ai jamais ressenties.
D'accord.
Okay. Dans ma vie en général, même avant d'être acteur, je ne ressentais pas le stress.
D'accord.
À l'époque, déjà, je travaillais, on me disait de faire ce métier parce que je faisais même l'imbécile, au travail, il n'y avait pas de souci, je chantais, je dansais. J'ai jamais eu ce stress qui vient chez moi. Enfin, si, quand même. Quand on demande une augmentation à son patron, le stress quand même est un peu là, mais ça va.
Une question pour Cadour. Est-ce que justement la sophrologie, elle peut suffire pour justement, on va dire, tuer ce stress?
Ben, sincèrement, là, par rapport à l'exercice qu'on vient de faire, comme je l'ai dit il y a quelques minutes, même si je l'ai dit en rigolant, c'est très rare quand j'arrive pas à réfléchir. Ma tête est constamment en réflexion. Parce qu'après, dans notre métier aussi, on pense à beaucoup de choses. On est acteur, mais on pense à d'autres choses. On a envie de faire ça. Donc, quoi qu'il arrive, on a toujours des trucs en tête, des projets, des idées, toujours quelque chose à écrire. Et là, depuis un bon moment, j'ai la tête vide. Et je me sens bien. Je me sens bien, ça faisait longtemps que je ne m'étais pas senti bien comme ça.
Ça veut dire que ça marche.
Sincère, ben ouais, franchement, ouais, je dirais que ben pour moi, ça marche. Comme elle a dit, je suis réceptif.
D'accord.
Après, peut-être que, est-ce que c'est sur un principe comme l'hypnose ?
C'est inspiré également de l'hypnose, mais ce n'est pas le même principe de l'hypnose.
Parce que je sais que pour l'hypnose, je ne suis pas du tout réceptif. Ouais, parce que j'ai la peur des aiguilles. Et
Il n'y a pas d'aiguille en hypnose.
Vous êtes tatoué.
En acupuncture.
Non, je voulais me faire tatouer, mais j'ai la phobie des aiguilles.
Ah, pardon.
Dès que je vois une aiguille, c'est pas possible pour moi, même une prise de sang, c'est dur. Bon, je suis un adulte, donc je l'ai fait, je suis obligé. Mais voilà, quand je voulais me faire tatouer la première fois, je me suis dit que j'allais me faire hypnotiser pour pouvoir me faire tatouer tranquille tout ce qui suit. Et quand j'ai fait mes premiers tests, on m'a dit que j'étais pas du tout réceptif.
D'accord.
C'était un truc avec les doigts collés, pas collés. Et je l'ai décollé comme je voulais, donc j'étais pas réceptif à ça. Mais par contre, je suis réceptif à votre pratique.
Parce que c'est une technique plutôt psychocorporelle, parce que
aussi,
c'est la respiration, parce qu'on vient...
C'est sur la respiration.
Sur le corps, du coup. Je voulais juste revenir sur quelque chose que vous aviez dit, c'est tuer le stress. On ne tue pas le stress, on l'optimise, hein, parce que le stress, c'est du très bon stress. En fait, le stress, quand on le laisse, on va dire, nous submerger devient un mauvais stress, mais à la base c'est quelque chose de motivateur, le stress est bon à la base, voilà, si vous voulez juste revenir sur ça.
Le stress c'est bon, elle a dit.
Le stress c'est la vie.
Le stress c'est la vie.
C'est ça. Sans stress, justement, je revenais pour comme vous êtes acteur, sans trac, avant de monter sur scène, c'est pas ça qui peut vous pousser justement à l'action.
Sur la motivation, j'en ai d'autres plus grandes que...
Vous avez plus grandes que le trac,
oui. Ok. Ouais.
Et d'ailleurs, pourquoi vous êtes devenu acteur ?
C'est une histoire assez compliquée. Je ne suis pas sûr que tu aies assez de temps d'antenne. Mais si tu veux, il n'y a pas
essaye
de...
Essaye quand même. Essaye.
D'accord. Ben, en fait, avant ça, j'étais menuisier agencement. De base, je suis menuisier agencement et charpentier naval. Donc, je peux construire des meubles sur mesure, comme je peux créer un bateau. Et j'ai attrapé une maladie qui a fait que je n'ai plus travailler. J'ai eu des cellules cancéreuses à l'estomac.
D'accord.
Et malheureusement, j'ai dû arrêter de bosser, ce qui a été assez difficile, sachant que ça faisait 7 ans, je crois, que j'étais dans l'entreprise. Donc, tout arrêté. Je pensais un jour retrouver mon travail, mais le fait d'avoir eu beaucoup de traitements a fait que j'ai repris certaines maladies enfantines, comme l'asthme et d'autres trucs. Et la menuiserie et l'asthme ne sont pas bons copains. Donc j'ai dû changer de métier et rien d'autre ne me plaît plus que faire rire les gens ou leur donner des émotions qui dans leur tête sont sûres que ce sont des émotions qu'ils verront jamais et leur faire ressentir vraiment ce moment, leur rappeler que voilà quoi, c'est maintenant, ce moment est présent et faut vivre. Donc à partir de là, je suis parti à Paris pendant 3 mois pour faire ce que je voulais faire et j'ai réussi à faire ce que je voulais. J'ai fait quelques émissions comme TPMP, Ici c'est le Moine, et à partir de là, j'ai été entre guillemets repéré par Vincent Asta, dont je lui fais un gros bisou, et qui m'a proposé de faire du micro-trottoir pour la radio où il est à l'époque, qui s'appelait Ça Chauffe sur VL.
Voilà.
Et après, on a commencé comme ça. Et après, j'ai dû revenir ici pour la santé. Et je me suis dit que j'allais continuer ici et pas à Paris, en fait. Donc, voilà. Et là, sur ce, j'ai que des bonnes nouvelles. Sur les 1 an où je suis là, 1 an et demi, j'ai fait de la figuration pour des gros films. Et après, sur des films moyens ici, j'ai fait 3 films, plus clips, plus publicité, tout ce qui suit à Paris aussi. Beaucoup de publicité, surtout pour la bouffe. Mais sinon, voilà. Mais je regrette, même ma maladie, tout ça, je regrette pas. Je regrette pas parce que, au final, je suis parti vers la chose que j'aimais. Et s'il y a bien une chose qu'il faut se mettre dans sa tête, c'est qu'il faut faire vraiment les choses qu'on aime à un maximum et de bien réfléchir, à prendre des bons choix. Si les jeunes, vous nous écoutez, prenez de bons choix et réfléchissez bien. Parce qu'au final, vous vous retrouvez à faire des études que vous ne vouliez pas faire.
C'est un très beau parcours et un très beau message aussi pour la jeunesse. Mais cependant, quel est le conseil que vous pouvez donner à tous les jeunes qui nous écoutent actuellement et qui aimeraient faire le même chemin que vous ?
Le conseil que je peux leur donner, sincèrement, déjà, il y en a un qui est très important. Quoi qu'on vous dise, quoi que vous faites, quoi qu'il se passe, n'oubliez pas ce que vous avez dans vos têtes. C'est vous qui décidez, c'est pas les autres. Même si on vous dit que vous êtes pas bon, le terme pas bon ne veut pas dire qu'on peut pas s'améliorer. Si on n'est pas bon, eh ben c'est pas grave. On n'a pas besoin de se dire je suis bidon, je laisse tomber. Faut pas laisser tomber, faut pas lâcher. On peut s'améliorer, et comme elle a dit tout à l'heure par rapport à bien sûr qu'il y a plein de solutions et que ça se travaille, tout se travaille, tout à force d'entraînement. Au bout d'un moment, on maîtrise. Quand on maîtrise, on gère et c'est à partir de là que ça démarre, bien sûr. Surtout que nous ici, on a notre chance entre guillemets. On va pas dire dans le travail tout ce qui suit, mais chez nous, on a ce qu'on appelle la tchatch. C'est hyper important dans mon métier. Moi, ce qu'il a fait à Paris, il m'a fallu un mois et demi quand même pour faire ce que j'ai fait, alors que j'étais parti que pour 3 mois. Je connaissais personne. Je suis arrivé là-bas, j'ai fait mes émissions et j'ai commencé à rigoler avec tout ce qui est agent de sécu et le staff. Et c'est à partir de là qu'après, on m'a invité à des choses. Viens voir, il y a tel truc, ça te dit pas de venir là. Donc, c'est à partir de là, en fait, que je suis parti et j'étais super content. Donc, vraiment, ne lâchez rien et n'ayez pas peur, surtout de dire les choses.
J'ai une question pour Loïc qui vient de parvenir. Il demande par quoi est-ce qu'on commence pour devenir acteur.
Par quoi on commence pour devenir acteur? Ben, sincèrement, ce n'est pas une question à laquelle je pourrais répondre parce que moi, je ne savais pas. Moi non plus, je ne vais pas te mentir. C'était qui déjà la personne, pardon?
Loïc.
Loïc.
T'es un auditeur.
D'accord, donc.
Nous écoute.
Moi, j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai mis un peu d'argent de côté et je suis parti 3 mois à Paris sans connaître personne. J'ai fait une colocation avec des gens que je ne connaissais pas et j'ai pris le métro jusqu'aux émissions dans lesquelles j'ai essayé de demander comment il fallait faire pour participer aux émissions. On m'a expliqué, dès le lendemain j'étais là. Et après, petit à petit, comme on dit, j'ai fait mon nid. Voilà, mais après, je ne suis pas parti sur un principe. J'ai pas fait d'études spéciales. J'ai pas fait théâtre ni quoi que ce soit.
D'accord.
Il a agi. C'est
exactement.
L'action.
J'ai agi.
Direct.
Ouais.
Très chers auditeurs, nous sommes toujours sur la radio Galère. Donc, pour ceux qui veulent passer un coup de fil, c'est le 04 91 08 28 10. Le 04 91 08 28 10. Donc, vous pouvez appeler à ce numéro et puis poser vos questions. Et je me retourne directement vers Asman. La même question. Pourquoi êtes-vous devenu sophrologue?
Alors, donc moi, à la base, je viens d'un autre secteur qui est complètement différent du milieu de la sophrologie. J'étais gestionnaire sinistre en assurance, dans une grande boîte d'assurance, au siège régional, je ne dirai pas le nom. Et au bout de 3 ans, je me suis vite vue offrir un CDI rapidement, un très bon salaire, un très bon poste. Et en fait, c'est une période de ma vie où déjà j'étais intéressée quand même par l'acupuncture, je faisais du yoga, donc j'étais déjà intéressée par ces médecines parallèles et plus ces activités-là plutôt. Et j'étais très stressée en fait. C'était une période où j'étais très stressée, j'avais 24 ans, où je trouvais plus trop de sens. Et un jour, je rencontre un ami que je n'avais pas vu depuis très longtemps. Je lui fais un coucou qui s'appelle Jean-Michel Sago, qui est aussi sophrologue. Et je le crois, ça faisait un moment qu'on ne s'était pas vu, on va boire un café, et donc on se raconte un peu nos vies, et il m'annonce qu'il devient sophrologue, qu'il est devenu sophrologue. Donc à l'époque, là maintenant c'est à la mode, donc c'est assez connu, mais il y a 5 ans en arrière, 4-5 ans en arrière, c'était méconnu, encore moins 6 ans, enfin voilà, c'était méconnu, on va dire, c'était moins démocratisé. Et il me parle de ça, il me parle de la sophrologie, il me dit « Asma, je te vois bien là-dedans ». Il me met en contact avec la directrice de l'école. Donc je vais aller à l'école de sophrologie PACA et je fais de la sophrologie pour moi à la base et je tombe amoureuse tout de suite. Et je me dis bon, j'ai envie de faire ça, donc je le fais comme toi. Oui. Donc voilà, je me dis ben, je veux faire ça, donc j'agis, je vais faire en sorte de le faire.
Oui, c'est ça. De toute façon, c'est ce qu'il faut, hein. Il faut agir, hein. Sinon ça marche pas.
Sinon ça marche pas.
Bien sûr. Il y a personne qui va nous donner cette force, hein. C'est nous qu'on se la donne.
Quand il faut le faire, il faut le faire.
Ouais.
Ah ouais.
Donc les jeunes, puisque vous nous écoutez, comme l'a dit Kadour, c'est à vous de dessiner les grandes lignes de vos vies.
C'est ça.
Et c'est vous qui décidez à chaque instant qui vous êtes et ce que vous voulez être. Donc ce travail dépend en grande partie des choix des êtres et des choses qui nous passionnent aussi.
Oui.
Alors chers auditeurs, nous sommes toujours à la radio Galère. Donc avant de partir en pause, parce qu'on va le faire tout de suite en musique, je vous rappelle le numéro sur lequel vous pouvez appeler pour poser des questions, le 04 91 08 28 10. Après la pause, on se retrouve tout de suite. Radio Galère.
Oh, oh, oh. La nuit du haut de ma tour, la tête dans les étoiles. Le lendemain à l'école dans la cour, je disais poteau, passe-moi la balle. Maman me disait fais tes devoirs, je lui répondais attends de voir. Je lui faisais lire chacun de mes poèmes. Un jour à Paris je chanterai que je l'aime. Paname, Paname, on arrive. Moi ma gueule et mon sac à dos. Paname, Paname, on arrive. Moi mes rêves et mes chansons. Paname, Paname, on arrive. Moi ma gueule et mon sac à dos. Paname, Paname, on arrive. Moi mes rêves et mes chansons. Paname, Paname, bon, bon, on arrive. Paname, Paname, bon, bon, on arrive. Et mes rêves. Paname, Paname, bon, bon, on arrive. Papa, Paname, on arrive. Ce matin, sur le quai, j'attends le train pour Paris. Sur la tête, mon bonnet, des idées sur la vie. Là-bas, les gens se foutent de tout, de tout. Dans les bars, ils boivent des coups à la santé de tous leurs amours, qui bien sûr dureront toujours. Paname, Paname, on arrive. Moi, ma gueule et mon sac à dos. Paname, Paname, on arrive. Moi, mes rêves et mes chansons. Paname, Paname, on arrive. Moi, ma gueule et mon sac à dos. Paname, Paname, on arrive. Moi, mes rêves et mes chansons. Paname, Paname, bon, bon, on arrive. Paname, Paname, bon, bon, on arrive. Paname, Paname, bon, bon, on arrive. Papa, Paname, on arrive. Moi aussi, je veux me foutre de tout. Dans les bars, aller boire des coups. Oublier qu'après le périph', la vie est un peu plus triste. Paname, Paname, on arrive. Paname, Paname, on arrive. Paname, Paname, on arrive. Moi, ma gueule et mon sac à dos. Paname, Paname, on arrive. Moi, mes rêves et mes chansons. Paname, Paname, bon, bon, on arrive. Paname, Paname, bon, bon, on arrive. Paname, Paname, bon, bon, on arrive. Papa, Paname.
Non, bienvenue à la Radio Galère 88.4 FM, donc de retour à la régie avec nos deux invités, Asma Bensada et M. Kadour, acteur. Je suis M. Guiromayo Amogo, a.k.a. GDH Combetir, chroniqueur de l'émission La Voix du Bétir, auteur de livres Dans la peau de l'immigré, un homme part dans un monde qui s'égare. Et donc, madame, c'est madame ou mademoiselle Asma?
Apparemment, mademoiselle n'existe plus.
Ah ouais?
Bon, on va le garder. Non, c'est mademoiselle.
C'est vrai? D'accord. Donc, pour ceux qui veulent devenir sophrologue, grâce à vous, combien est-ce que ça coûte?
Alors, la formation m'a coûté 4 800 €. Donc, c'est pas...
Ah, j'ai entendu ma respiration au moment où elle a entendu le prix. Hein.
J'ai entendu la respiration. Donc, il y a des... Donc, moi, j'ai pas eu d'aide de financement. Ça a été un financement personnel. Mais je sais qu'il existe des aides de financement. Je connais des personnes qui se le font financer avec le fonds GESIF. Je crois qu'ils arrivent à se le faire financer grâce aux aides de DIF ou de CIF. Je ne sais plus comment ça s'appelle, au sein même de leur entreprise. Je veux dire, il existe pas mal d'aides de financement. Le DIF, voilà. Donc, il existe quand même des solutions de financement pour se faire financer la formation.
Ah, il en existe quand même. Il en existe quand même,
oui.
Des moyens de financement.
Oui, oui, oui.
Donc, voilà, qui est encourageant.
Oui, oui.
Et où est-ce qu'on vous trouve, du coup?
Alors, vous me trouvez sur Facebook et Instagram. Je n'ai pas encore de site. Donc, c'est Asma Bensada, juste avec mon nom, vous me trouvez. Et donc, je vais apparaître justement sur le site de la Fabrique d'Art et de Culture également. Voilà.
Donc, pour tous les jeunes, pour tous les jeunes qui nous écoutent en ce moment, si jamais vous êtes intéressés par les cours de la sophrologie, parce que vous pensez que ça peut vous apporter un plus, n'hésitez pas à contacter Asma Bensada sur Facebook, Twitter, Instagram. Et justement, vous avez dit que vous êtes dans le 7e arrondissement.
C'est ça.
C'est bien ça.
Ouais. Et c'est... À la Fabrique d'Art et de Culture, c'est un lieu pluriel, un très bel endroit où il y a de la danse, il y a du yoga, il y a plein de... C'est un lieu pluriel, un endroit magnifique. Et voilà, c'est là-bas que j'anime des ateliers collectifs et individuels.
Et vous donnez des cours aussi un peu partout dans des associations, des
structures comme ça. C'est ça. J'interviens dans des associations, dans des structures. Je vais intervenir à partir de mardi prochain avec la CARSAT, donc avec des personnes âgées. J'interviens auprès d'un jeune public en sophroludique. Donc là, c'est sous forme de jeux, comme on en parlait tout à l'heure, de plein de jeux avec des enfants à partir de 6 ans. J'interviens dans des maisons pour tous également. Et voilà.
Ça, c'est parfait, ça. Alors, Monsieur Cadeau, faudrait qu'on fasse un tour là-bas mardi.
Ah ouais, mais en plus, pendant qu'elle était en train de parler, je suis parti directement sur son Facebook pour regarder, parce que c'est vrai que j'ai testé tout à l'heure.
Très réactif.
Et j'approuve.
Mais il y a une séance tout à l'heure, si ça vous intéresse, à 19h.
Ah ouais, alors, sincèrement, tout à l'heure, je ne pourrais pas, ça c'est sûr. Mais pour dégager du stress que j'arrive pas à sortir, c'est vrai que ça pourrait être intéressant, parce qu'après les séances, c'est pas des séances obligatoires ou toutes les semaines, voilà. Si on peut avoir des périodes où on a des grosses périodes de stress et on a envie de faire ça, on vient, voilà. Ouais, voilà, non, ça peut être très 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 intéressant. C'est comme quand tu es sportif et que tu as arrêté le sport pendant un petit moment et que tu as envie de, pour une journée, te remettre... Vas voir les copains jouer au ballon.
Ça fait toujours du bien.
Voilà.
Ben là, à la fois, vous êtes acteur de votre bien-être.
Exactement. Exactement. C'est moi qui décide.
Ouais. Il faut savoir se faire du mal quelquefois.
Du mal pour avoir du bien.
Ouais. Avoir du bien. Ou là, non, du bien tout court pour avoir du bien.
Aussi.
Moi, je préfère dire du mal. Parce que ça fait quand même du mal de savoir que... En 2 minutes, tu transpires tellement comme il vient de le faire là.
Ah ouais, mais c'est ah ouais.
Bon, chacun sa réaction.
En 5-10 minutes, quoi, c'était...
Non, mais il faut dire que la souffrance, elle attire l'homme de caractère. Et c'est en l'étreignant qu'on se réalise. Donc, justement, M. Cardo, pour revenir à vous, vous m'avez dit que vous avez joué dans pas mal de films déjà.
Dans quelques films, ouais.
Dans quelques films.
Pas mal, ouais, ça fait beaucoup quand même. Quelques films. Ben là, sur l'année dernière, en tant que... Que participants au projet, il y en a eu 3. Il y en a un qui s'appelle Le secret de la sauce samouraï, qui est sorti déjà, et il passe dimanche au Vidéodrome 2. Voilà. Il sera là, il repasse encore au Théâtre de l'Œuvre aussi. Il y en a eu, il y a eu un film avec Nawir Jones, de la production Yes We Can.
Yes We Can.
Ouais.
C'est Coco Velten.
C'est ça, exactement. Velten, ah oui, ben, nous sommes des amis d'enfance.
Ouais.
Voilà, donc on se connaît depuis des années. J'ai tourné aussi avec lui sur le film qui s'appelle Photo République. Voilà. Et sinon, il y a un troisième film que j'ai fait aussi pour aider l'association MTF. Associations qui font des films qui sont excellents d'ailleurs, avec mon ami Mehdi qui est vraiment au top, et le film s'appelle Street Hop, voilà, enfin si le nom pour l'instant, et là parce que là ils sont encore en train de finir le film, tout ce qui suit, donc ils font les montages, tout ce qui suit, donc oui, ça va.
Quel est celui qui vous a le plus marqué?
Celui qui m'a le plus marqué ou celui qui m'a le plus amusé?
Les deux.
Les deux, c'est deux choses différentes pour moi. Parce qu'il y en a un qui m'a marqué, mais pas forcément top. Mais sinon, après, sur le métier en lui-même, je m'éclate. Dans ce que je fais, je m'éclate, sinon je ne le ferai pas. Si je ne m'amuse pas dans ce que je fais, je ne le fais pas. Et en plus...
Alors, quel est celui qui vous a le plus amusé?
Celui qui m'a le plus amusé, je pense que c'est Street Up, parce que c'est celui où j'ai tourné le plus longtemps, en fait. Puisque pour les autres, j'ai tourné, mais ça a été des tournages ou d'une journée ou de 2 jours, à tout casser. Mais Street Hop, ça a duré un été.
D'accord.
Un été complet. Donc,
c'était plus investi, du coup.
Ouais, oui. C'était plus important. Oui. Mais pour les autres, surtout aussi, c'était pour rendre service à mon ami Nawir et tout. Bon, après, c'est vrai que je l'embête souvent. Mais c'était pour...
Il faut souligner que c'est très important ce que vous venez de dire quand vous parlez d'amusement. Dans la vie, il y a 3 principes, 3 règles fondamentales que tout être humain normalement devrait en avoir. Et les jeunes qui écoutent, il est important que vous le sachiez. Ces 3 choses, il y a déjà un travail qu'on aime bien, comme vous venez de si bien le dire.
Très important.
Deuxièmement, une personne qu'on aime bien. Et troisièmement, un rêve qu'on veut réaliser. Parce que si vous faites un travail que vous n'aimez pas, Ben vous le ferez toujours comme si c'était le job d'une autre personne. Donc vous ne le ferez jamais bien. Et si vous dormez avec une personne que vous n'aimez pas, vous réveillerez toujours, vous allez toujours vous réveiller comme si vous avez bagarré toute la nuit. et vous irez au boulot fâché. Et donc, en même temps, si vous n'avez pas un rêve qui vous anime, vous n'aurez pas, vous n'aurez pas de motivation.
Tout à fait.
Donc,
Et une structure, si j'ai envie de, si je peux confirmer ce que vous dites. Bien sûr. Une structure influence dans l'autre, je pense. Que si ça ne va pas dans le couple, ça ne peut pas aller dans le travail, ça ne va pas dans le travail, ça ne va pas dans la santé, ça ne va pas avec sa personne. Si vraiment toute structure est reliée, rien n'est isolé. Enfin, pour ma.
Bien sûr, après, psychologiquement, on peut faire pas mal de dégâts à notre corps, nous-mêmes. Mais comme il a dit sur ça, c'est énorme. Dites-vous dans votre tête que si vous... Enfin, moi, je sais que si je pouvais revenir en arrière et que je remonterais le temps, je bosserais à l'école. C'est un truc, certes, qu'on a entendu toute notre vie quand nos parents nous disaient « Bosse bien à l'école !» Et toi, tu te disais « Putain, encore, il m'a dit ça aujourd'hui. Quoi. Qu'est-ce que je m'en fous ?» M'en fous, plus tard je serai rappeur. Ouais, mais il y a beaucoup de choses aussi en dehors de tout ça. Parce que quand vous arrivez et que vous entendez des termes dont vous connaissez que dalle, alors que tout est mêlé, c'est... Même la culture en général est hyper importante. Il faut être cultivé aussi pour avoir des conversations intéressantes avec des gens. Pour, surtout
nourrir,
si vous voulez, bien sûr.
Se nourrir.
Parce qu'après, on grandit. Il faut se mettre dans sa tête qu'on grandit tous un jour ou l'autre et qu'on ne peut pas tous rester aussi dans notre petit train-train quotidien où toute ta vie, tu entends « Ouais, je gros bien !» Non, il faut...
Évoluer.
Et donc, justement, en parlant d'études, c'était quoi votre matière préférée à l'école?
Moi, ma matière préférée, c'était le dessin.
Le dessin?
Le dessin, j'ai toujours été fort en dessin. Et de base, comme je t'ai dit, c'est pour ça que j'ai dit « Travailler bien à l'école ». Hyper important, c'est parce que j'avais de très bonnes notes en dessin. Je voulais devenir dessinateur pour la pub. Je voulais aller dans ce métier-là. Et au final, on m'a dit « T'as vu tes notes ?» J'ai dit « Ouais ». J'ai dit « T'as vu mes dessins ?» Il m'a dit « On s'en fout, c'est tes notes !» J'ai dit « Ok ». Et il m'a dit « L'école veut pas de toi ». J'ai dit « Je vais postuler dans toutes les écoles où ils font du dessin artistique et dans lesquelles je vais essayer d'arriver à faire le métier que j'aime ». Et on m'a dit « Personne ne veut toi. Par contre, il y a une école de menuiserie qui veut toi. » Je dis « Ouais, mais moi, je veux tenir un crayon, pas les fabriquer. » Et le mec, il m'a dit « D'abord, il faut apprendre à fabriquer les crayons. » Au final, j'ai fabriqué que des crayons. Voilà, non, j'ai fini par faire des études de menuiserie. Voilà. Après, le métier m'a plu. Je ne dis pas le contraire. Mais ce n'est pas ce que je voulais faire. Ce n'était pas mon choix. Et jusqu'à maintenant, si, comme je le disais tout à l'heure, si je pouvais revenir en arrière, je bosserais à l'école pour arriver à faire ce que
choix,
je veux.
En fait.
Bien sûr. Le choix est très important.
Et de là, comment est-ce que vous avez fait pour arriver dans le cinéma?
J'ai dit tout à l'heure, c'était le fait d'être parti après à Paris. Après, quand je suis revenu ici, j'avais mon ami Nawir, que quand je suis revenu, j'ai pas mal embêté. Parce que bon, c'est vrai que je l'embête souvent en Aouir et je lui fais un gros bisou. Et je le remercie pour sa patience avec moi, parce que je l'harcèle des fois, le pauvre. Mais c'est grâce à Aouir. Tout est grâce à Aouir. Parce que, quand j'étais à Paris, on m'a demandé de faire des démos, on m'a demandé de faire des micro-trottoirs. Et j'avais pas de matériel, j'avais rien. Sincèrement, je suis parti au culot. Mais encore plus au culot que le culot, il m'aurait dit toi tu déconnes. Mais j'y suis allé comme ça. Et au final, quand je suis arrivé ici, qu'on m'a demandé ça, la première personne que j'ai appelée, c'est Nawir. Et Nawir, il m'a prêté le matos, il m'a prêté la caméra. Je suis parti après acheter ce qu'il fallait, tout ce qui suivait. Et c'est grâce à Nawir que j'ai pu faire mon premier micro-trottoir pour la radio.
C'est intéressant, les micro-trottoirs?
Franchement, ouais, c'est excellent. Pour moi, je trouve que ça englobe tout. Ça englobe ton métier de comédien comme ta convivialité aussi. Parce que
c'est quoi exactement le micro-trottoir?
Micro-trottoir, c'est en fait un micro, un trottoir. Okay. Un micro, un trottoir, une caméra. Des gens qui passent, tout simplement.
Et comme les youtubeurs.
Oui, comme les youtubeurs, exactement. D'ailleurs, j'ai mis ma première vidéo sur YouTube, c'était l'histoire du sexisme. C'était un truc que... Ouais, c'est... Je voulais passer un message un peu rigolo et tout le monde s'en fout.
Tout le monde s'en fout.
Non, ça va, c'est grâce à cette vidéo que que j'ai pu montrer un peu ce que je savais faire aux gens de la radio. Ouais, c'est après cette vidéo qu'on m'a demandé aussi de venir. On m'a dit qu'ils aimaient bien ma bienveillance envers les gens et le fait que je les agresse pas quand je parle ou que je suis toujours en train de sourire, rigoler.
C'était une carte de visite.
Voilà, donc ça faisait en quelque sorte.
Et à ce moment, vous, c'était quoi votre matière préférée à l'école ?
Ma matière préférée, donc quand j'étais petite aussi, quand j'étais au collège, j'adorais le dessin, pareil. Mais j'ai jamais voulu en faire un métier, c'était vraiment une passion. Une matière préférée, ça dépendait du professeur en fait. Vraiment, ça dépendait.
Wow.
C'est-à-dire que.
Ouais. S'il était blanc aux yeux bleus,
non, ça dépendait
c'était le prof
si...
de maths.
Non, ça dépendait s'il m'éveillait. Une certaine curiosité ou une passion, c'est-à-dire que en fonction de l'année d'études, je sais pas moi, la littérature ou le français ne m'intéressait pas. L'année d'après, j'allais être passionnée parce que le prof venait m'éveiller une curiosité, une passion, parce qu'il me transmettait sa passion. Ça dépendait plutôt du prof.
Alors, ça a dû rencontrer de très bons profs.
Certains, d'autres oui, d'autres non, comme dans tout, voilà.
Parce que pour un prof qui arrive à transmettre sa passion à un élève, c'est beau.
Beau. C'est pas commun, c'est vrai, je pense. J'ai jamais connu.
C'est quoi votre plus beau souvenir de l'école ?
Mon plus beau souvenir de l'école ? Il y en a eu plein. Il y en a eu un peu moins. Stress, comme on disait tout à l'heure. Il y a eu la période d'adolescence, donc qui est un peu plus compliquée. Il y a eu les meilleures périodes, c'était, je sais pas, avec les amis. Moi, j'étais au lycée Montgrand. Donc, il y a eu la période du CPE. Je ne sais pas si vous avez connu ça aussi. Donc, ça, c'était une période qui était assez drôle. De bons souvenirs de ça.
Sympa, les CPE.
Ouais, CPE, voilà.
C'est pareil pour vous, monsieur Cadour ?
Ah oui, j'ai 32 ans. CPE, j'ai connu. j'ai connu la règle aussi. Quand ton prof te disait, tends ta main, mets les doigts. Non, mais monsieur, mets tes doigts.
Il vous demandait aussi de planter les choux.
Non, ça, j'ai pas connu, mais j'ai connu les journées à la ferme. où on allait, on voyait les vaches se faire traire et on buvait le lait tout frais. Enfin, frais, mais c'était super chaud.
Et quand j'étais en primaire, on me donnait du lait. Je sais pas si on vous a l'occasion
oui,
des petits laits de
ouais.
passé.
Vous avez connu en brique ou en sachet ?
En brique.
En brique, ouais. Ouais. Moi j'ai démarré par les sachets.
Les années 88-86.
Donc, chers auditeurs, nous sommes toujours à la Radio Galère 88.4 FM. Le numéro il est le 04 91 08 28 10 pour ceux qui veulent passer des coups de fil. Alors, la semaine dernière, nous avons reçu un invité, monsieur Caïs Amour, un jeune entrepreneur. Qui fait dans le commercial à Orange et il nous a fait part de sa vision par rapport aux jeunes de Marseille. Il nous a dit que pour lui, les jeunes de Marseille, c'est des fainéants, c'est des gens qui ne veulent pas bosser parce qu'ils trouvent qu'il y a du boulot à Marseille, sauf qu'eux, ils préfèrent se plaindre des institutions que de chercher du travail. Est-ce que vous partagez le même avis que lui, monsieur Cadour ?
Moi, à un certain niveau, la personne qui a dit qu'il y avait du taf, tout ce qui suivait, on va pas se mentir. Du taf, il y en a. Après, ça dépend dans quoi. Après, ça dépend de tes études et ça dépend beaucoup de choses. Si on doit regarder, je pense réellement, vraiment dans les jeunes, dans le domaine du travail, je sais pas. Moi, déjà, même à l'époque où, quand j'étais à l'école, je voyais mes pions qui avaient déjà des diplômes comme chimiste et les mecs étaient pions. Au collège, c'était le même principe. Et si on demande maintenant à un pion c'est quoi son travail, dans un collège ou un lycée, il va vous sortir que le mec a un bac plus 4, plus 5, plus 3 ou un truc comme ça. Donc déjà, eux, ils ont du mal à trouver du travail alors qu'ils sont diplômés. Les jeunes qui ne sont pas diplômés, c'est encore pire. C'est encore pire. Et je fais partie de cette génération-là. Moi, je suis sorti avec un BEP, CAP, charpenterie navale et une mention... un BEP CAP de menuiserie et une mention de charpenterie navale. Et quand je suis sorti de là, moi, on m'a donné un métier dont personne ne te prend si tu n'as pas 10 ans d'expérience dans le métier, surtout dans le bateau. On va pas te donner un bateau qui vaut 50 000 euros à faire une réparation à 5 000, tu massacres le bateau, il faut que tu en repayes à nouveau, type, tu vois. Ouais. Donc on va pas te donner les outils et te dire vas-y, éclate-toi. Donc
après. Ma vie, Asma ?
Je ne pense pas que les jeunes d'aujourd'hui sont feignants ou quoi.
Je suis d'accord.
Je pense qu'on a certains. et une réalité peut-être pour certains qui ont du mal par rapport à d'autres facteurs, peut-être familiaux, des problèmes familiaux qui ne les aideraient pas, enfin bref. Mais je pense qu'il y a juste un clivage entre le monde du travail et les jeunes, et que de relier, de faire des ponts entre les deux, c'est ça qui est peut-être compliqué, qu'il y a une réalité entre, comme vous disiez tout à l'heure, on me demande de faire des études, mais à la réalité, on me demande 10 ans d'expérience. Comment je fais pour avoir ce pont de ces 10 ans d'expérience si personne ne veut me prendre? Bien comment sûr. J'ai de l'expérience?
Et même par rapport aux études que j'ai fait, oui. Je suis arrivé à l'entreprise, ça n'avait rien à voir.
Et donc, vous savez, l'auto-entrepreneuriat, ça existe aussi. Il y a beaucoup, moi je connais beaucoup de jeunes, oui. Qui justement ils n'ont pas fait d'études, mais c'est des auto-entrepreneurs qui gagnent bien leur vie.
Bien sûr.
Surtout qu'en France, il y a beaucoup de structures qui sont là, qui n'attendent que des projets innovateurs pour financer.
Mais c'est l'ignorance de ça, parce que du coup le jeune qui est un peu isolé en fonction du quartier où il habite défavorisé, qui n'a pas accès à l'information, comment peut-il savoir qu'il y a des projets innovateurs? Est-ce qu'il est capable lui-même de devenir auto-entrepreneur et de commencer à agir? Donc il y a vraiment un travail en amont à faire, je pense, et qui est compliqué pour arriver à ce stade-là. Oui, il y a du travail, il y a des solutions, mais le plus compliqué, c'est de rassembler les deux, je pense. Vraiment, c'est mon avis.
Et moi, je pense surtout qu'il y a un gros problème de communication entre les jeunes et les structures professionnelles en elles-mêmes, et que même la médiation fait qu'ils n'arrivent pas à se comprendre.
Mmh. Vous pensez que ça dépend du milieu dans lequel on vit?
Je pense, oui.
Oui, complètement. Ben, venant de Belzunce, sincèrement, moi, j'ai grandi pas avec l'esprit de me dire que dans le monde du travail, c'est ça, ou que par rapport à l'éducation française, c'est ça, et qu'il y a ça. Non. Moi, j'ai grandi en me disant dans ma tête que par rapport à plus à ma façon de parler ou les trucs comme ça, ça allait être un peu plus difficile. Ce qui a été difficile, vu que je suis sorti diplômé, et avant ça, j'ai commencé à travailler dans le ménage. Je vidais des poubelles et je nettoyais des toilettes avant d'être un vrai menuisier et d'avoir eu ma première entreprise. Ce qui était pour moi totalement et complètement triste. Parce que tu t'es tué pendant des années à faire ce métier. C'est un métier aussi dangereux dans lequel on s'est plutôt blessé. Et au final, tu te retrouves à vider des poubelles et à nettoyer des toilettes. Quoi, alors que... voilà quoi.
Et oui, messieurs et dames, noir est l'histoire quand on grandit dans la rue et dans l'ignorance. Donc il faut s'informer. Nous allons faire une petite pause et on se retrouve tout à l'heure.
Et si les temps te semblent interminables, c'est rare sur la table. Attendre les vents favorables. Ouais. Attendre les vents favorables. Les vents favorables. Si les temps te semblent interminables, tape du poing sur la table. Car nous sommes une poignée de misérables à attendre les vents favorables et hisser la voile au gré des vents et tisser sa toile au fil du temps. Les vents favorables. Si les gens te semblent indésirables, comme le pain sur ta table,
comme le pain sur ta table,
et tu demandes s'il est vraiment souhaitable d'attendre les vents favorables pour hisser la voile, au gré des vents, et tisser sa toile, au fil du temps, les vents favorables. T'endors et ne te sens plus capable. Laisse pas ta tête dans le sable.
Ta tête dans le sable.
Ça suffit, tu es seul responsable. Saisis donc les vents favorables. Les vents favorables. Yeah. Chauffe le mot, chauffe les vents favorables. Thank you.
Monsieur et dame, de retour sur la radio Galais 88.4 FM, toujours avec nos invités, madame Asma Ben Sada et monsieur Kadour, la voix du Bétier. Au micro, je suis le JDH comme Bétier, Guillaume Amougou, auteur de livres, animateur radio, chroniqueur de l'émission La Voix du Bétier. Une fois de plus, bienvenue parmi nous.
Merci. Merci.
Alors, Asma, vous nous disiez tout à l'heure que vous êtes présidente d'une association, c'est bien ça?
Alors, je ne suis pas vraiment présidente d'une association, mais je participe... Vous m'entendez?
Oui, okay. Je l'entends.
Je ne suis pas présidente d'une association, mais avec deux amis, nous gérons une association qui s'appelle Corps sur Terre, qui propose plusieurs activités, des séjours bien-être. Donc, il y a deux semaines de ça, nous avions fait un week-end bien-être qui alliait yoga, rando, au Layama, sur le chemin du Bibémus. C'est un très bel endroit. Voilà, donc le 9 juin, nous proposons également une initiation au beach volley. C'est gratuit, pour ceux que ça intéresse.
Ah, ce qui est gratuit.
Donc voilà, c'est une association qui propose plusieurs activités, dans la sophro, le yoga. Voilà, nous l'animons, je tenais à...
Et donc, du coup, où est-ce que cette association, elle est basée?
Le siège social est chez nous, quoi. Nous louons des salles, pareil, à la Fabrique d'art et de culture. En général, ça va dépendre du lieu où nous animons. Par exemple, là, ça va être sur la plage. À la fois, c'était au Layama. Ça va dépendre en fonction de ce que nous proposons. Dans deux semaines, il va y avoir une rando plus atelier de cuisine. Donc, voilà.
D'accord, parce que vous... Faites aussi bien la cuisine.
C'est plutôt un collègue à moi qui va faire la cuisine. Il s'appelle Saïd. C'était l'ancien gérant du Cours Anvers, le premier restaurant végétarien à Marseille, qui propose des ateliers de cuisine.
C'est une belle information, ça.
Voilà.
Et donc, du coup, quels sont vos projets d'ici, on va dire, les 30-50 prochaines années?
30-50 prochaines années, waouh. Je reprends ce que tu disais tout à l'heure, Kadour, sur le moment présent. Déjà, nous sommes aujourd'hui, maintenant, tout de suite, à discuter autour de cette radio galère. Nos projets, donc l'idéal, j'espère, avec mes collègues de cette même association, c'est de créer un lieu. Pareil, un lieu pluriel où, par contre, dans ce lieu, il y aurait la cuisine aussi qui serait mise en premier lieu et qui pourrait aussi, qui aurait une tendance, on va dire, une tendance associative et qui permettrait peut-être des jeunes de leur permettre de faire une rupture avec leur milieu pour les aider dans la réinsertion professionnelle. Pourquoi pas aussi?
Eh oui, c'est une très, très, très belle initiative. Ouais. Et vous, monsieur Kadour?
Moi, pour mes projets, pour l'avenir, c'est plutôt... Enfin, ce que je vais faire est plutôt important, donc je ne veux pas trop en parler sur le principe, mais je sais que... Enfin, ce que je peux dire, c'est que je veux finir sur une chose pour aider les gens. Mon principe, même si je fais plusieurs choses, j'ai bossé à la radio... Là, je suis acteur, j'ai écrit des textes dans la comédie, dans le comique, pour certains comédiens, pardon, dans le comique, dans le stand-up, les trucs comme ça. Donc, moi, ce que j'aimerais surtout à la fin, c'est pouvoir créer une structure pour pouvoir aider les jeunes de banlieue à développer leurs arts, mais vraiment. Après, il y a des trucs qui sont bien, je ne dis pas le contraire, qui sont top. Mais ça manque malheureusement de moyens. Et moi, ce que j'aimerais, c'est pouvoir trouver un jeune et ce jeune me dit « j'ai du talent », on me montre son talent. Et moi, je lui dis « ok gros, fais ton sac, demain je t'emmène à Paris et à lui, tu vas lui faire sa démo et t'inquiète pas, on va s'occuper de toi. » Moi, je veux arriver à faire ça. J'aimerais bien, ça sérieux, j'aimerais bien faire un truc comme ça, mais vraiment pour tout le monde.
Donner une opportunité.
Bien sûr, mais vraiment à tout le monde. Je m'en fous de ses origines, je m'en fous d'où il vient, je m'en fous de comment il a été éduqué.
Là pour créer les vents favorables.
Exactement, j'en ai marre que certains naissent déjà avec des cuillères en platine dans la bouche et ils s'en rajoutent 3-4 dans la bouche alors qu'il y en a qui mangent de la terre jusqu'à maintenant et qu'ils ont 50 fois plus de talent que l'autre qui a ses 50 cuillères en platine. Et je trouve ça totalement complètement triste.
Il y en a qui n'ont même pas de cuillère, ils mangent avec les mains.
Carrément. Exactement.
Non, ils mangent même pas parce qu'ils ont rien.
Moi, c'est des trucs, c'est ce qui me fait le plus mal. C'est ce qui me fait le plus mal au cœur. Vraiment, ça me fait trop mal au cœur.
Et donc, pour tous ces jeunes qui aimeraient vous contacter, comment est-ce qu'ils font ou comment est-ce qu'on vous contacte?
Ben, pour l'instant, je n'ai pas encore créé de structure ni quoi que ce soit. J'essaie surtout de me créer un gros carnet de numéros pour pouvoir agir au moment important.
Et oui, donc merci monsieur Kadour et merci à vous madame Asma. Nous tirons à la fin de notre émission La Voix du Bétir et donc on se donne rendez-vous vendredi pour une nouvelle émission, de nouveaux invités avec un nouveau thème bien sûr qui évolue dans la même lancée, insertion des jeunes sur le marché de l'emploi. Donc messieurs et dames, très chers auditeurs, merci de nous écouter tous les vendredis. On va se quitter avec une chanson, Mac Taylor, Je suis une légende, et on se dit donc à très bientôt. Aucune possibilité de vous contacter absolument.
Si, on peut me contacter sur Facebook, mais pas en tout cas pour avoir des projets.
Ça peut aussi être.
Je suis pas un casteur.
Ça peut aussi être.
Oui, j'oublie jamais d'où je viens. Après la mort, il y a l'enfer, il y a le paradis. Derrière l'amour, il y a la passion, la peine et la tromperie. Derrière mes larmes, il y a de la rage et beaucoup de regrets. Je sors du jamais, je suis pas en paix, je sais plus comment faire. Quand je pique des colères, je redescends et je deviens amnésique. Chicha Camo, c'est grosse pute, tout ça c'est fantaisie. Immigration, des microbes affamés, des frictions avec des fils de pute qui cherchent qu'à rafaler. C'est ça, hein? C'est ta mère qui pleure ou la mienne? Elle est loin l'époque où je sortais mon flingue avec majeur et index, avec Oufdi. Dans le bac à sable, loin du crack et du sale. Derrière une vodka, y'a pas forcément de raison valable. Boy, écoute ça, c'est un ancien qui te parle. À la tête, tout le monde nous quitte comme Tupac sans nous dire bye. L'espoir va die comme les petites Diana. La preuve, je regarde le sang couler dans le pays du Dalai Lama. Heureusement, à la Wakbal. Maman, 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 je t'aime tant. Maman, 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 je sais, adolescent, j'étais chiant. Heureusement que tu m'as pas maudit. Heureusement que tu m'as soutenu. J'étais beaucoup déçu. Je pense au destin brisé. Mes potos détenus dans les cités, y'a que des moutons et des suceurs. Très peu ne pensent par eux-mêmes. C'est comme ça qu'on reconnaît un leader. Légende, j'écris cet album sans même me comprendre. Si j'écoutais les nœuds du net, j'aurais pu me pendre. Mais j'ai la force mentale, déterre tel un camère. C'est mon flow hélicoptère qui me maintient dans les airs, qui me sort de la galère. J'vendrai encore de la coke, j'vendrai encore du bédo. J'aurai encore des envies de meurtre sur Trollo. Un loupard qui roule en queue. Facile de voir les gens se dessouder. Je respecte les familles solides, les frères qui restent soudés. Famille Youssef, famille Lakbi, famille Oulmedi, famille Niakate, famille Sissoko, famille Ba, famille Adoba, famille Amirsa, famille Doumbia, famille Dramé, Riton Razik et la famille Borja. J'en place une pour les valeurs familiales. Si Biflia, on va tous manger des liasses et c'est normal. Que je fasse du rap, c'est normal. Qu'Anelka fasse croquer ses refs, c'est normal. Que je représente mon 9-3, c'est normal. Que je te baisse si tu me fais du mal, c'est normal. Qu'un jour je fasse disque d'or, c'est normal. Derrière la calache, y'a la tristesse des quartiers nord. Les deuils, les envies de vengeance, mais la patience est d'or. A défaut de la raison, c'est le temps qui peut me guérir. Si tu prends le risque d'aller trop loin, tu comprendras où je suis. Plus personne a le temps pour les choses simples. Chacun est dans ses bails. T'as mis monnaie, mais sans monnaie, pas de life. Toujours une arme dans la boîte à gants, je rappe sur la boîte à rythme. Tous les yeux rivés sur le parc depuis les Qataris. En liasse de billets de sang jaune comme le canari. J'achète ta mère et le fils de pute qu'elle a pour mari. Ma façon de dire que je vous emmerde parce que je suis visionnaire. On dit que je suis fou et que je me grosse tête. Je suis pas là-bas, moi je me pavane pas. J'ai les pieds sur terre mais le géant a la tête dans les nuages. C'est pour ça que j'ai personne dans mon sillage. Quand je valide une prod, je rentre pas en cabine d'essayage. J'ai volé l'armure de Pégase à Seiya.